Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Pobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le mouvement citoyen Les Révoltés et la coalition des compatriotes africains du Burkina Faso COPABF ont fait le point de la gestion du pays 6 mois après la prise du pouvoir par le MPSR. Ils réclament la justice avant la réconciliation et la diversification des partenariats militaires. À la une également, Bassolement Bazir assure ses camarades de lutte que sa nomination au gouvernement n'enlève en rien son engagement syndical. C'était ce vendredi, à la faveur du 14e congrès de l'Organisation nationale des syndicats libres, ONSL. Et puis on parle de la création des zones d'intérêt militaire au Burkina et les déplacements de population que cela va susciter avec le professeur Alkassoum Maïga, enseignant-chercheur, ancien ministre et porte-parole du gouvernement. Il est l'invité de la rédaction. Vous l'entendrez à la suite de ce journal. Voilà pour vos titres. Bienvenue pour cette édition. L'armée togolaise reconnaît son implication dans la mort de 7 adolescents. Dans la nuit du 9 au 10 juillet, ils avaient été victimes d'une explosion aux alentours du village de Magba, dans la préfecture de Toné, à la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce qui ressort du rapport commandité par les forces armées togolaises et rendu public ce 14 juillet. Abdoul Fattah Tiemtoré nous fait le point.
Ces nouvelles attaques qui ont eu lieu dans la préfecture de Kindial, dans la zone faisant frontière avec le Burkina Faso, auraient fait une dizaine de morts. Selon les premiers témoignages, les victimes sont essentiellement un chef de village et ses collaborateurs abattus froidement par un groupe armé venu à moto. Des attaques qui surviennent quelques jours après la découverte d'un corps criblé de balles dans la même zone. Ce dernier était présenté comme étant un indice d'efforts de défense et de sécurité. La zone des trois frontières entre le Togo, le Ghana et le Burkina Faso est de plus en plus soumis à une tentative d'installation des groupes terroristes. Il y a Tipo Lomé pour Radio Oméga.
Crise sécuritaire, grand banditisme, crise alimentaire sont autant de mots qui minent le Burkina en ce moment. Pour en parler, le mouvement citoyen Les Révoltés et la coalition des patriotes africains du Burkina Faso COPABF ont tenu une conférence de presse ce vendredi à Ouagadougou. Les deux organisations font le point de la gestion du pouvoir par les nouvelles autorités 6 mois après leur prise de pouvoir. Le compte-rendu de Valérie Traoré et Yacouba Wilio.
Ce point de presse est voulu une halte pour le mouvement citoyen, Les Révoltés et la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPABF, pour dresser le bilan des 6 mois de gestion du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. La situation sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso reste très précaire en dépit des efforts consentis. À côté des défis qui se présentent aux nouvelles autorités, les premiers responsables des deux structures ont fait des propositions. Sur le plan sécuritaire, ils suggèrent entre autres le renforcement de la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité FDS, une mobilisation patriotique de tous les jeunes burkinabés de plus de 18 ans et surtout un choix clair dans les partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Roland Bayala, porte-parole de la COPABF.
Nous ne sentons pas la diversification des partenaires. Parce qu'au début, nous avons dit quoi ? Il y a des partenaires au niveau international qui sont des partenaires dont on a peur. Si ces partenaires font leur entrée, je veux bien sûr parler de la Russie. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont... Il y a beaucoup de gens qui vont fuir. Mais on nous a fait croire qu'effectivement, la Russie à elle seule ne pourrait être... On ne peut pas donner notre sécurité à... l'étranger. Donc pour cela, il faut diversifier les relations. Mais la diversification des relations, est-ce que ça nous permet d'avoir l'armement nécessaire aujourd'hui, au temps où, au moment où je vous parle, est-ce que ça nous permet d'avoir le matériel nécessaire pour lutter contre ce terrorisme? Donc s'il y a diversification, que ça soit sincère, rapide et vite.
Sur le plan humanitaire, il propose la mise en place d'une chaîne de solidarité et la réduction du train de vie de l'État en vue de dégager des ressources au profit des déplacés internes. La question de la réconciliation nationale était également à l'ordre du jour de la présente conférence de presse. Et sur ce chapitre, les animateurs du point de presse se sont voulus très clairs. la réconciliation passe obligatoirement par la case justice. Haruna Louré, porte-parole du mouvement Les Révoltés.
Aucune réconciliation pérenne ne peut se faire sans la vérité et la justice. Je dis bien aucune. Toutes les nations qui sont arrivées à une réconciliation vraie et sincère, qui a duré, qui a permis à ces nations de rebondir, sont passées par la vérité, par la justice. D'abord, nous nous pouvons dire, faisons table rase. Il y a des gens qui ont perdu des parents. Le peuple burkinabé a été victime des vols. Et quand les gens parlent souvent de justice transitionnelle, nous disons oui, mais il faut de la réparation de l'État. Vous n'allez pas voler des milliards du peuple burkinabé et venir dire que non, je m'excuse, j'ai volé comme ça et on va vous laisser. Non, vous devez réparer le peuple burkinabé avant que nous puissions aller à la réconciliation.
Tout en réaffirmant leur soutien aux autorités de la transition, le mouvement citoyen Les Révoltés et la CUP-ABF exhortent le président du FASO à plus d'engagement et de réalisme vis-à-vis des préoccupations des Burkinabés.
L'Organisation nationale des syndicats libres, ONSL, a officiellement ouvert ce vendredi son 14e congrès ordinaire à Ouagadougou, à la Bourse du Travail. Ce congrès se tient sous le thème « Face aux défis sécuritaires et humanitaires ». L'ONSL s'engage pour l'éveil des consciences des travailleuses et travailleurs. Il s'agit du 14e congrès ordinaire de l'ONSL. Il devait accueillir un nouveau secrétaire général. Le compte rendu de Marina Ouedraogo avec la voix de Khaled Ouedraogo.
L'Organisation nationale des syndicats libres, ONSL, tient depuis ce 15 juillet son 14e congrès ordinaire qui sera sanctionné par la nomination d'un nouveau secrétaire général. Paul Nobila Kabore, secrétaire général national sortant et syndiqué depuis 1974, entend passer le témoin à la jeune génération.
Je pense pour ma part qu'il faut laisser les jeunes aller de la raison pour laquelle, à partir du 15 aujourd'hui, à 16 à 9h, jusque demain à 16h, là, je laisse aux jeunes qui vont continuer, qui vont faire plus que ce que j'ai fait, afin que toute syndicat, l'unité d'action syndicale se renforce, pour que les bases se renforcent. Et surtout, et nous souhaitons que la sécurité, là, que nous puissions avoir vraiment une tranquillité, une paix dans ce pays-là. Et si ce n'est pas au niveau de la cohésion, on ne peut pas faire. Donc, par conséquent, nous demandons à tout le monde, camarades qui sont syndiqués ou pas, de tout faire pour que nous soyons ensemble pour cette transition-là, pour aider pour que, là, en tout cas, la sécurité soit dans ce pays-là.
Le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassol Mabazié, invité à cette cérémonie d'ouverture de ce 14e congrès ordinaire, a rappelé que son engagement syndical reste intact. Il promet donc œuvrer pour de meilleures conditions de travail des agents de la fonction publique.
J'ai dit que je prends l'engagement dans la mesure où votre esprit de sacrifice, votre disponibilité, votre engagement à mes côtés et même me protéger jusqu'à maintenir ma vie en état où je suis. Cet engagement, c'est de vous dire que dans la vie d'un homme qui est très bien éduqué, il ne trahit pas son orientation, il ne trahit pas ses valeurs, il ne trahit pas ses engagements. C'est pour vous dire que ce que nous avons défendu, ce n'est pas parce que, pas seulement, c'est retrouvé à un autre niveau de responsabilité dans la construction du pays que Bassolma Bazié a changé de cerveau. C'est le même Bassolma Bazié hier, c'est le même aujourd'hui et je me battrai pour rester le même Bazié.
En attendant les conclusions du présent congrès ordinaire, le secrétaire général sortant émet le vœu de voir l'Organisation nationale des syndicats libres grandir davantage pour assurer son rôle de mobilisation et de défense des travailleurs.
On parle économie. À présent, l'économie burkinabé peut être rehaussée à travers l'opérationnalisation des pôles de croissance. Et pour cela, le Comité national de pilotage des pôles de croissance propose des projets structurants pour accélérer le développement durable. Le comité a tenu sa session ordinaire ce vendredi à Ouagadougou au sein du ministère chargé des Affaires étrangères. Le compte rendu de Moumouni Tamboura.
Nous sommes en situation de guerre et il convient de promouvoir les pôles de croissance comme instrument majeur de résilience de l'économie nationale. C'est une urgence selon le Premier ministre Albert Ouedraogo qui interpelle l'ensemble des acteurs à s'y mettre pour une sortie de crise économique.
Les mouvements de population du fait de l'insécurité ont entraîné un abandon de 384 702 hectares de superficie de terres cultivables et une perte de production de 323 093 tonnes durant la campagne agricole 2021-2022, toute chose qui a provoqué une dégradation de la situation alimentaire.
L'engagement est donc total au niveau des acteurs qui prévoient impérativement assurer la sécurité environnementale afin de faciliter l'exécution du dit projet, ce qui permettra sans doute, selon Charles Dalla, coordinateur exécutif des pôles de croissance, de rattraper les pertes agricoles.
On a une grande réduction de la production de plus de 300 000 tonnes qu'il faut rattraper. Donc en améliorant les questions sécuritaires, cela devrait permettre de rattraper cette situation-là. Donc dans la proposition, c'est d'accroître déjà le nombre de personnels sur les sites pour sécuriser et aussi donner les moyens mobiles pour pouvoir faire des rotations, des opérations de dissuasion pour améliorer la sécurité sur les sites.
Le Burkina Faso dispose à nos jours trois pôles en exécution. Le pôle de Bagré, du Sourou et la grappe huilerie de Bobo-Dioulasso. Le pays dispose aussi des pôles de croissance en préparation. Il s'agit du pôle du Sahel, de Samandeni, la zone spéciale de Ouaga et Bobo-Dioulasso et enfin le pôle de croissance de l'Est. L'on retiendra que cette session vise en résumé à augmenter la production dans les différents pôles en vue de satisfaire la demande, ce qui permettra également de réduire le taux de chômage et de développer le commerce extérieur.
Après l'agriculture, eh bien, l'élevage est la seconde activité la plus pratiquée au Burkina Faso et le PADELB, projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina, aura contribué au rayonnement de cette filière dans les 13 régions du Burkina. À la veille de la fin du projet, le ministère en charge de l'élevage section Centre-Ouest a dressé le bilan du PADELB à Koudougou jeudi dernier, le compte-rendu de Sabouna Ouedraogo.
Du bilan du PADELB au centre-ouest, il ressort qu'il a contribué au développement de plusieurs filières de l'élevage. En plus des formations, les acteurs ont bénéficié de nombreuses infrastructures. Tahirou Nea est le directeur régional en charge des ressources animales.
Nous avons bénéficié de la mise en place, de la réalisation de quatre postes vétérinaires, de 16 parcs de vaccination et d'un puits positif réalisé à Boura. Alors, il y a également à côté les kits fourragers, les kits apicoles, etc. Vous avez plus de 300 micro-projets qui ont été financés par le PADELB.
Les bénéficiaires directs sont unanimes à reconnaître que le PADELB a été un facteur déterminant dans le développement de leurs activités.
Nous avons vraiment beaucoup bénéficié de beaucoup de trucs dans ce projet, notamment des projets, appui en projet, des financements.
Il y a beaucoup d'apiculteurs qui ont été touchés avec les moyens de production tels que sont les ruches et nous pourrons augmenter de façon quantitative et qualitative la production du miel.
Au regard des acquis engendrés dans l'élevage grâce au PADELB, la région du centre-ouest souhaite voir ce projet se poursuivre. Boubacar Traoré, gouverneur du centre-ouest.
Et que le gouvernement travaille avec le bailleur de fonds ou d'autres bailleurs de fonds pour continuer d'accompagner ce secteur. Quand on sait qu'avec la crise que nous vivons aujourd'hui sécuritaire, beaucoup de notre cheptel se trouvent être pratiquement détournés vers d'autres horizons.
Le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso qui prend fin en juin prochain a eu pour ambition, entre autres, d'améliorer la productivité et la commercialisation de la production animale dans des chaînes de valeur sélectionnées. Sabouna Ouedraogo, Koudougou, Radio Omega.
Et puis dans un monde emprunt au numérique, les établissements et centres de formation professionnelle de l'État ambitionnent se tourner vers une formation virtuelle. La question était en réflexion ce vendredi à Ouagadougou à l'occasion du forum annuel des écoles et centres de formation professionnelle de l'État. Le thème retenu pour cette année est la formation à distance, enjeux et perspectives pour les établissements de formation professionnelle de l'État. Le compte-rendu est signé Abdoulaziz Zoulabou et Jean-Angèle Ouali.
La pandémie du COVID-19 et la situation sécuritaire nationale auraient eu des impacts sur les activités des écoles et centres de formation professionnelle de l'État. La formation à distance se présente donc comme une alternative pour pallier un tant soit peu ce manque à gagner. Elle est d'ailleurs une tendance de plus en plus utilisée dans le domaine de la formation. Emmanuel Nian est le secrétaire permanent des écoles et centres de formation professionnelle de l'État.
Pour déjà avoir une vision pour l'avenir, pour un avenir, quel que soit effectivement ce qu'on pourrait avoir comme difficulté ou bien comme orientation nouvelle. Parce que même en cas de sécurité totale, si la sécurité, elle va certainement revenir, la sécurité pour notre pays, et la formation à distance est une alternative pour permettre une formation sans trop de difficultés.
Le présent forum devra permettre aux participants de s'approprier le mécanisme de la formation à distance, d'échanger sur les enjeux de la formation à distance et de dégager les défis et les perspectives de cette formation pour ces établissements. Pour ce faire, des devanciers dans ce domaine sont invités pour un partage d'expérience. Emmanuel Lignan.
Déjà, vous savez que l'université virtuelle a une longueur d'avance et nous avons donc invité l'université virtuelle. Son président est là. Il va nous donner une communication sur son expérience. Il y a aussi l'Académie de police qui est aussi est déjà sur le terrain donc, de cette formation à distance. L'Académie de police nous donnera la deuxième communication. Et à l'issue donc, de ces deux communications, et les écoles pourront tirer tous les enseignements et tous les enseignements nécessaires pour se lancer dans cette nouvelle vision.
L'ouverture de ce forum a connu la présence du ministre en charge de la fonction publique, Bassolement Bazier. Il a exhorté les différents acteurs à prêter une attention particulière lors des différents travaux.
La revue de presse.
La mise en marche de la Haute Cour de justice, annoncée en Conseil de ministres le 13 juillet dernier, et le bitumage de la route Waiguya-Djibo font la une des quotidiens ce vendredi. À l'international, les éditorialistes s'intéressent au moment historique de retrouvailles entre Bédié, Ouattara et Gbagbo au palais de la présidence, 12 ans après la crise post-électorale de 2010 qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et dont les blessures et meurtrissures peinent à cicatriser. La revue de presse est signée Valérie Guéret.
Vous êtes prévenus, la Haute Cour de justice arrive, s'écrit l'Express du Faso. Selon le journal, les audits actuellement en cours dans les ministères, institutions et autres services de l'administration ne se font pas pour rien. Ainsi, tout le monde est prévenu, met en garde le journal Bobolais. Puisque chacun veut la justice, il faut sans doute se préparer à l'affronter, car si elle est faite pour les uns, elle l'est aussi pour les autres. Insiste ce canard, ne dit-on pas qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, s'interroge notre confrère de l'Express du Faso, qui estime que la Haute Cour de justice ne doit pas être un instrument entre les mains des hommes forts du moment, comme certains ont voulu le faire par le passé, pour chasser des sorcières, même quand il n'y en a pas. À la une, le journal Le Quotidien s'intéresse au bitumage de la route Waiguya-Djibo. Savoir allier investissement et sécurité, s'exclame notre confrère quotidien qui souligne que pour un tel projet qui concerne la route Waiguya-Djibo, il est certain qu'il va falloir mettre l'accent sur ce qui apparaît comme incontournable pour la bonne exécution des travaux durant les 30 mois que vont durer le chantier. C'est pourquoi la sécurité doit être permanente pour les raisons que nous connaissons tous, a fait remarquer le journal Le Quotidien qui profite d'ailleurs féliciter les principaux bailleurs de fonds qui aient accepté financer et accompagner le projet dans le contexte actuel. Hors de chez nous, les éditorialistes du jour s'intéressent à la rencontre entre Ado, Bédié et Gbagbo. Rencontre Bédié, Gbagbo, Ouattara, les prémices d'un long processus vers un pays réconcilié, barre à sa une aujourd'hui au Faso. Et le journal Le Pays de renchérir que les Ivoiriens en attendent beaucoup de cette rencontre. Pour le pays, c'est la première fois la crise post-électorale de 2010-2011 que les trois têtes de gondole de la scène politique ivoirienne se retrouvent pour un dialogue que l'on espère fécond. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette rencontre entre ces trois poids lourds de la faune politique ivoirienne est une initiative à saluer, fait remarquer le journal du 1200 logements. Aujourd'hui au Faso renchéri, qu'au final, l'issue de cette rencontre n'a pas donné lieu à de grandes décision, mais elle a eu le mérite de réunir des frères ennemis qui, il y a peu, se regardaient en chien de faïence. Le chemin pour y parvenir est long, mais ne doit-on pas dire que même le plus long des voyages commence toujours par un pas, conclut aujourd'hui au Faso.
C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Adama Konaté à la mise en onde Ibrahim Niaoné. Merci à vous de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Alkassou Maïga, bonjour.
Oui, bonjour Denis.
Alors, vous étiez le dernier porte-parole du dernier gouvernement de Roch Kabore. Alors aujourd'hui, quelle appréciation vous faites justement de la situation sécuritaire au Burkina Faso?
Je ne suis pas là dans la peau du porte-parole, mais je suis là comme un Burkinabé ordinaire, professeur de sociologie qui observe, qui a été dans l'action gouvernementale. Nous avons tenté de faire ce qu'on devait et ce qu'on pouvait faire. Mais les événements sont les événements. Et aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de pensée pour les Burkinabés qui souffrent dans leurs âmes et dans leur chair du fait de l'insécurité. Et je pense que rien que pour ces raisons-là, il n'y a pas lieu de polémiquer sur des questions aussi sensibles que celles de l'insécurité. Le constat est là. Tout le monde constate effectivement que nous ne sommes pas sur la piste de l'amélioration. Mais nous devons nous donner les coudées franches pour que plus jamais de souffrance dans ce pays-là du fait de l'insécurité.
Il n'y a pas eu d'amélioration. Pourtant, les nouvelles autorités, le MPSS s'est basé sur l'insécurité pour mener le coup d'État. Aujourd'hui, la situation semble n'avoir pas évolué. Faut-il en rire ou en pleurer?
Non, je pense que de toutes les façons, on était dans les larmes déjà. Ce pays n'a pas connu un moment de répit. Et ça, tout le monde le sait. 7 ans où on a espéré pouvoir apporter des solutions. 7 ans où on a tenté ce qu'il fallait tenter. Mais chaque fois qu'il y a un Burkinabé qui tombe, il n'y a pas de l'espace pour le rire.
Le gouvernement actuel a décidé donc d'aller au dialogue avec les groupes armés, ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays. Pensez-vous que cela puisse être la solution?
Est-ce que lorsque vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas clairement identifiés, même si nous pensons qu'une grande partie d'entre eux sont des frères qui ont pris des armes contre leur propre pays, mais il faut déjà identifier ceux qui sont dans cette posture-là pour engager le dialogue. Si on sait où ils se trouvent, si on sait qui ils sont, moi, je n'ai pas de problème qu'on engage des échanges avec eux. Mais quand vous regardez les atrocités sur le terrain, vous ne pouvez pas dialoguer avec des gens qui n'ont pour mode opératoire que de semer la désolation. Ce que nous avons vu à Sétenga, ce que nous avons vu dans certaines zones, ne laisse pas de place au dialogue avec ces gens. Actuellement, du fait des incursions qu'ils arrivent à faire, ils sont dans la posture de penser qu'ils sont capables assez rapidement de prendre tout le pays. Donc il ne faut pas qu'on perde notre temps à réfléchir sur des dialogues avec des gens qui sont en train de nous agresser et de semer sérieusement la désolation.
Mais à ce niveau, du côté de la ville de Djibo, à un moment donné, on a cru entendre que le dialogue avait marché, ce qui avait permis à ce que le calme revienne, que la ville soit ravitaillée. Ne pensez-vous pas donc que justement ceux-là qui attaquent le Burkina Faso sont aussi disposés à écouter?
Mais c'est quoi la situation aujourd'hui à Djibo? Si ça avait vraiment marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on retourne à la case départ? Ce sont des stratégies. Lorsque je me sens acculé et que je pense que j'ai besoin d'un répit, je peux effectivement tendre la main pour le dialogue. Mais après, c'est des coups qui partent par derrière la nuque. Lorsqu'on va prendre du terrain sur eux, je pense que le dialogue pourra s'installer. On ne peut pas négocier en situation de faiblesse.
Alors, il y a que le gouvernement annonce également la création de zones d'intérêt militaire. Quelle analyse vous faites par rapport à cette autre question?
Bon, je pense qu'au stade où on en est, tout ce qui doit être tenté pour gagner le combat mérite d'être tenté. Je peux donc commencer par saluer l'idée de dire qu'on va faire des zones d'intérêt militaire. Mais il faut que ça soit fonctionnel. Et si vous faites des zones d'intérêt militaire qui ne sont même pas des zones militaires, l'intérêt se trouve où? Donc il faut commencer par... Il faut militariser. Bon, si moi je dis, je me crée une zone d'intérêt pour mes activités, c'est que je dois occuper le lieu avec mes activités. Il faut qu'il y ait la présence militaire dans ces zones. Sinon, l'intérêt, il est fictif. Ben, si on découpe des zones et puis on dit que ce sont des zones d'intérêt militaire, moi, j'aurais voulu que d'abord, on les occupe et après, on opérationnalise en disant que nous sommes dans des zones d'intérêt militaire. Bon, là, on dira aux gens de partir. Mais qui reste derrière? Pour être sûr que l'intérêt militaire qu'on veut défendre dans cette zone-là sera préservé. Donc, ça, c'est ma première préoccupation. La seconde préoccupation, c'est que quand l'État doit occuper une zone, pour quelque activité que ce soit, la bonne démarche, c'est de faire une déclaration d'utilité publique qui donne les forces et les moyens à l'État de faire en sorte que les occupants puissent partir pour que l'État puisse dérouler ce qu'il doit dérouler. Mais je comprends, dans l'urgence, c'est une situation de guerre où on n'a pas le temps de faire tous ces arrangements. Sinon, les textes sont clairs sur ces questions-là. Ensuite, lorsqu'on a cela, il faut être sûr que, lorsqu'on va demander aux populations de partir, que l'ivraie ne va pas suivre le bon gré. C'est-à-dire que nous, on va déplacer nos populations en leur disant que c'est une zone d'intérêt militaire. Mais les complices qui sont avec ces populations-là, les agresseurs qui sont avec ces populations-là, on a quel moyen pour s'assurer qu'on ne va pas les, nous-mêmes aider ces gens-là à se transporter dans des zones où ils vont aller donc agresser nos populations?
Merci, Alkassou Maïga.
Merci à vous, Denis.
C'était l'invité de la rédaction.